Voici l'hymne de la révolution syrienne. Un hymne que vous aviez déjà entendu, Riyad Satouf ?
Je l'avais déjà entendu, oui, oui. Oui.
Qu'est-ce qu'il dit, cet hymne ?
Eh bien, hélas, je ne parle plus arabe. Donc, je crois qu'il dit « Dégage, Bachar ». C'est le « Ya Bachar ».
Je crains que cela ne se soit pas exactement déroulé comme ça. Mais vous avez... Non, il n'est pas parti, Bachar al-Assad.
Oui, c'est l'hymne.
Et c'est ce que vous aviez... Vous pressentiez dès le départ, vous l'avez expliqué à partir de 7h40, Riyad Satou, vous avez expliqué que dès le début de cette révolution, vous pressentiez que les choses se déroulent mal. Vous avez eu l'occasion d'évoquer avec nos deux historiennes qui ont dialogué avec vous, Delphine Diaz et Isabelle Landonna, ce troisième tome de l'Arabe du futur. Et évidemment, aujourd'hui, la Syrie, c'est... en particulier une ville, Alep, et une situation qui nous effraie, une situation face à laquelle nous semblons impuissants. Votre sentiment par rapport à ce qui est en train de se dérouler à Alep, Riyad Satouf ?
Eh bien, Alep, c'est une ville où je suis allé dans les années 80. Je vais le raconter dans la suite de l'Arabe du futur. En effet, c'est une ville incroyable. Et ce qui se passe, c'est absolument... l'abandon total du monde pour ce qui se passe à Alep est affreux. Alors, je parle sous la surveillance d'historiens, donc je ne sais pas si je connais particulièrement, mais il faudra que Alep, c'est la ville où a été inventée l'écriture. C'est Alep, c'est Aleph, la première lettre A, et le A qui est le taureau inversé, en fait. C'est-à-dire le début de toute chose, et le fait que le monde entier abandonne la ville où tout a commencé, je trouve ça très triste, enfin c'est affreux.
Est-ce que ce déferlement de violence, il vous étonne ? Est-ce qu'au contraire, il y avait une culture de la violence ? Parce que malgré tout, dans l'Arabe du futur, il y a beaucoup d'humour, il y a aussi des comportements de violence. Est-ce que cet ensauvagement, il était prévisible, Riyad Satouf ?
Je ne sais pas si c'était prévisible comme ça, mais il est vrai que la Syrie, que j'ai connue moi, c'était pas du tout une dictature religieuse ou un pays qui mettait la religion en avant. Pour moi, c'était vraiment plus un pays soviétique, avec le recul. C'est-à-dire qu'à l'école, c'était des méthodes inspirées de l'URSS. D'ailleurs, Fazel Assad lui-même ressemblait à Staline. Il y avait ses photos partout, un moustachu souriant comme ça qui regarde le peuple. Et à l'école, on était éduqués pour devenir des futurs petits soldats, comme je pense en France avant la guerre de 14. Je voyais récemment, il y avait des affiches qui étaient ressorties de gens antimilitaristes qui après la guerre de 14, conseillaient à leurs parents, aux parents des enfants, de ne plus leur acheter de jouets de petits soldats pour ne pas exciter les enfants à devenir des soldats. Justement, et en Syrie, à cette époque-là, tous les petits enfants rêvaient d'être soldats. Moi-même, je jouais avec des petits soldats en plastique qui représentaient des Israéliens et qui avaient des têtes incroyablement fourbes. C'était l'ennemi absolu de la Syrie. Donc, je pense que les gens étaient comment dire, peut-être conditionnés. En tout cas, dans mon village, c'était comme ça, à se préparer à se bagarrer plus tard contre un ennemi.
Isabelle Landonna, une question pour Riyad Satouf.
Alors, on évoquait à l'instant, Guillaume le faisait, Alep, qui est une ville où il y a la deuxième ville de Syrie, hein, qui est complètement détruite alors qu'elle était classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui évidemment pose le problème de savoir ce que ça peut apporter ce genre de classement. Mais plus généralement, Alep, c'est une ville où il y a toujours eu de très importantes communautés chrétiennes. Et vous évoquiez, Riyad Satouf, à l'instant, la question de la religion. Dans l'Arabe du futur, tome 3, il y a un certain nombre de personnages qui sont des chrétiens, d'une part, la famille de votre père, qui est musulmane, d'autre part, et puis vous, le petit blond non circoncis, qu'on prend pour un juif, puisqu'il n'est pas circoncis.
Oui, c'est compliqué à comprendre.
C'est très compliqué à comprendre.
Ça mérite peut-être quelques explications.
Ça mérite quelques explications, et surtout, quel est, dans le vécu qui fut le vôtre, ce lien entre le maître chrétien, l'ami de votre père haut placé chrétien, le tenancier d'une boutique à Homs qui vend des produits luxe chrétiens, ces gens qui vous entourent, qui sont musulmans, et vous-même qui êtes pris pour un petit juif odieux parce que vous n'êtes pas circoncis.
Oui, alors expliquez-nous cette histoire de circoncision, parce qu'on s'y perd un peu, Riyad Sattouf.
Alors oui, ça c'est un vaste débat parce que enfin c'est une pas ma circoncision mais le
ah, débat des, si, dans le fils,
voilà on vous l'a raconté religions. Aussi
mais il est vrai que voilà en fait pour parler de la circoncision quand j'étais enfant donc mes cousins nous on habitait dans un petit village musulman sunnite donc c'est la majeure partie de la plus grande partie de la population en Syrie et il y a beaucoup de gens pauvres ce sont les classes un peu les plus inférieures de la société c'est vrai que les chrétiens j'aime pas parler en généralité évidemment il y a des gens de toutes, il y a des pauvres et des riches partout, il y a des sunnites très riches, etc. Mais les chrétiens étaient les gens qui étaient un petit peu au-dessus. C'est-à-dire, ils avaient les magasins un peu modernes, il y en avait beaucoup qui parlaient français. Donc ma mère rêvait d'entrer en contact avec les chrétiens. Elle était d'origine elle-même chrétienne. Et pour parler de la circoncision, en fait, mes cousins qui s'étaient fait circoncire plus jeunes que moi, quand ils faisaient pipi dans les champs, j'avais remarqué qu'ils n'avaient pas le même zizi que moi, parce qu'on faisait pipi côte à côte, et eux-mêmes avaient remarqué que mon zizi n'était pas le même. Et donc tout ce qui était différent pour eux était source de méfiance, et ils me disaient « mais est-ce que t'es pas sûr, t'es sûr que t'es pas juif ?» Parce que le juif était l'ennemi absolu, et il y avait beaucoup d'enfants qui mettaient en cause mon appartenance à la société du village, parce que j'avais des origines étrangères. Et donc, parce que j'étais blond, donc j'étais sans doute un juif dissimulé, parce que ma mère était française, donc c'est peut-être que j'étais juif. Et alors, quand on a vu que j'étais pas circoncis, là, c'était ultra bizarre. C'est-à-dire, il a fallu que je m'explique assez rapidement sur cette absence de circoncision. Et donc, c'est vrai qu'en fait, mon père a décidé de me faire circoncire.
Delphine Diaz.
Oui, l'antisémitisme est très présent dans les différents tomes de l'Arabe du futur. Israël, sans cesse décrit comme l'ennemi suprême, finalement, de l'Arabe du futur lui-même. Et plus largement, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous abordez sans cesse les questions géopolitiques, alors de façon extrêmement pédagogique, finalement. Vous refusez d'en parler souvent dans les interviews, mais finalement, dans votre livre, la représentation des tensions géopolitiques entre les différents acteurs de la région du Moyen-Orient, Israël, mais également l'Arabie saoudite, coincé entre tout cela, vous avez bien sûr la Syrie, le Liban voisin, qui sont représentés donc à la fois à travers le discours du père, qui fait souvent des cours sur ces pays, mais également à travers des cartes qui permettent aussi finalement aux lecteurs de mieux comprendre le contexte dans lequel vous vous situez. Alors ce qui m'a intéressé aussi, c'est qu'il y a tout un passage sur l'évocation des accords Sykes-Picot de 1916, où là aussi le père fait un petit cours. Et on pourrait aussi discuter des liens avec l'actualité la plus brûlante, puisque Daesh s'est récemment emparé cette question des accords Sykes-Picot de 1916, qui interviennent en pleine guerre mondiale pour finalement se répartir entre la France et la Grande-Bretagne des zones d'influence au Moyen-Orient. Complot Sykes-Picot, selon les membres de Daesh, qui vont filmer très régulièrement des vidéos qui montrent la contestation des frontières de sable. Alors, est-ce que vous pouvez réagir justement sur ça?
Voilà, on passe de votre circoncision aux accords Sykes-Picot.
Non, mais c'est un. Alors, c'est vrai que très tôt, en fait, comme mon père était historien, il me parlait souvent de la politique. Alors lui, il était historien particulier parce que il rêvait de faire un coup d'État. C'était pas du
tout.
Mais
il y a beaucoup d'historiens comme ça, vous savez, dans la salle.
Et donc,
ils veulent tous faire des coups d'État.
Voilà, ils voulaient exécuter les incompétents, prendre leur place. Enfin, c'était très particulier. Mais je me rappelle, moi, quelque chose en tant qu'enfant que j'avais tout de suite remarqué, c'était les frontières de la France étaient extrêmement. Le trait des frontières était tout, je sais pas, c'était très irrégulier, allait dans tous les sens, il avait évolué beaucoup. Et les frontières syriennes et des cartes du Moyen-Orient étaient tracées à la règle, toutes droites. Et je me rappelle avoir dit à mon père, je lui ai dit, mais comment ça se fait que les frontières comme ça sont toutes droites, alors qu'en France, c'est des toutes petites. Enfin, en Europe, les frontières ne sont jamais dessinées en ligne droite. Et mon père, lui, justement, il déteste. Enfin, me disait, mais C'est ces chiens d'Européens qui ont fait les frontières, et ils prenaient des règles, et ils disaient, tiens, toi, t'auras les Anglais, tiens, toi, t'auras ça, moi, je... En fait, ils le vivaient comme une humiliation, et comme le fait que le peuple, ce que lui considérait comme étant le peuple arabe, n'avait pas eu son mot à dire dans la répartition de la géographie, comme ça. Et donc, c'est vrai que lui-même aussi, le vivait comme une grande humiliation. Et, par exemple, quand une des idoles de mon père, c'était Saddam Hussein, quand il a...
Oui, je sais, c'est un peu... Oui, il avait... Ça va jeter un froid. C'est pour ça qu'il se fait pousser la moustache à un moment.
Voilà, ce qu'il aimait beaucoup avec Saddam Hussein, c'était qu'il essayait de retrouver des frontières qui étaient... il repoussait les frontières qui avaient été créées par les Européens.
Isabelle Eulandena.
Alors Delphine évoquait à l'instant les accords Sykes-Picot, les fiches en quelque sorte qu'on trouve dans l'Arabe du futur sur un certain nombre de pays, notamment un passage sur l'Arabie Saoudite extrêmement circonstancié. Et vous évoquiez votre père historien, enseignant à l'université, qui avait des idées sur ce point. Cela nous fait une sorte de transition finalement avec ce que vous avez pu apprendre à l'école, qui est très présente dans ce tome 3, bon, déjà dans le tome 2, hein, l'école dans votre village syrien, et puis ensuite l'école quand vos parents, enfin votre maman et vous-même et votre frère allez en France pour la naissance du troisième enfant. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est justement cette distance qu'on croit réelle entre l'enseignement en France dans les années 80 et l'enseignement dans le milieu scolaire en Syrie. Et lorsque vous arrivez en Bretagne, en réalité, la maîtresse s'aperçoit très vite qu'on vous a mis au CE2 et que vous en savez beaucoup plus qu'un élève de CE2. Donc la question est, finalement, comment avez-vous vécu cet environnement scolaire syrien, puis la transition avec l'environnement scolaire français, dont vous dites que les enfants sont bizarres, vous semblent étranges, etc., etc. Cette distance, finalement, entre deux mondes qui sont, a priori, très différents, mais où on retrouve en même temps la même violence, parfois la même cruauté entre les enfants.
Ce qui témoigne, en tout cas, des vertus de l'éducation syrienne, puisque vous arrivez en France, vous savez tout.
Très en avance.
Non, alors c'est vrai que je crois que c'est peut-être une image qui est induite par le livre, le fait que c'est en français, parce qu'en fait, je savais... Quand je suis arrivé dans l'école française, je savais très bien lire et très bien écrire le français parce que c'est ma mère qui me l'avait appris en Syrie. Après, le savoir... Alors, je connaissais, mais j'étais assez bon en maths. Mais après, le savoir que j'avais appris à l'école syrienne ne m'a pas servi dans l'école française. C'est simplement parce que je me retrouvais en CE2 que je n'avais pas fait de CE1, ni de CP, ni de maternelle, et que la maîtresse avait voulu savoir si je savais lire, et qu'en effet, je lisais mieux que les CM1, simplement parce que j'avais bénéficié d'une professeure à domicile qui était ma mère. Mais après, c'est vrai que la principale différence, je dirais, qui m'avait le plus marqué entre l'école du petit village en Syrie et l'école du petit village en Bretagne, c'était deux choses. Le fait que la maîtresse en Bretagne ne tapait pas les élèves pour les punir, alors qu'en Syrie, c'était le cas. Donc dès qu'on parlait, on se prenait un coup de bâton. Il y avait toute une gradation des punitions corporelles.
Et des manifestations de sadisme,
voilà,
aussi,
oui. Objectivement. Et il y a un embrigadement dans la perversion, parce que le maître en Syrie, par exemple, des fois il tapait tellement fort qu'il cassait son bâton. C'est ce que je raconte dans l'Arabe 3. Et qui, après, il prenait à partie la classe, il disait « La semaine prochaine, vous allez chacun m'amener un bâton, et je choisirai celui qui me sciera le mieux pour taper les... » Alors on devait tous amener un bâton. Comme j'étais particulièrement lèche-cul et que je voulais pas me faire taper, j'amenais toujours le plus énorme bâton possible, et le prof pouvait jamais l'utiliser, c'était assez horrible. Voilà. Et en France, c'était pas du tout le cas. Il y avait une absence totale de violence physique, et il y avait surtout les filles, voilà, que je n'avais pas dans ma classe en Syrie.
On va écouter un auteur de bande dessinée qui vous est cher, Hergé, et qui est également cher au cœur de France Culture. Du reste, aujourd'hui, Ping Pong sera en direct du Grand Palais, où il y a une exposition Hergé. On écoute la voix du papa de Tintin.
Je crois qu'il s'agisse de romans ou qu'il s'agisse de théâtre, mais je crois que tout auteur, quel qu'il soit, y compris un auteur de bande dessinée, se projette sur ses personnages, et je crois que Tintin, c'est une partie de moi-même qui aurait voulu être un héros, qui aurait voulu être un reporter, comme vous, simplement, pour commencer. Et puis c'est le capitaine Haddock avec mes colères.
Ah, vous êtes aussi le capitaine Haddock.
Mais oui, je suis tout ça, je crois que les principaux personnages, je me retrouve en eux parfois. Je crois que c'est vrai, je crois que c'est
un romancier. Et vous dites Dupont et Dupont, c'est moi ?
Oh oui, aussi, oh oui, quand je fais des bêtises, ça m'arrive de faire des bêtises.
Henriette, ça touche, je ne vous demanderai pas si ça vous arrive de faire des bêtises, mais en tout cas, je vous demanderai ce qu'il y a d'Hergé en vous. C'est un auteur que vous appréciez beaucoup.
Eh ben Hergé, c'est un auteur très important en effet, parce que ce petit village en Syrie, les seuls livres que j'ai lus quand j'étais là-bas, c'était les Tintins. Et en fait, j'ai appris à lire le français concrètement dans Tintin. Ma mère m'a appris à lire en lisant les Tintins. Donc les Tintins ont commencé à être abstraits et ont ensuite gagné du sens au fur et à mesure que j'ai appris à lire. Et Tintin a commencé par être quelque chose de divin pour moi, parce que je pensais que c'était comme le soleil ou le vent ou la terre, que ça existait de toute éternité. Et le jour où j'ai découvert qu'il y a quelqu'un avec créé ça et qu'on pouvait dessiner et qu'on pouvait raconter des histoires, j'ai immédiatement eu envie de le faire. Et en fait, ça m'a... si on peut parler de vocation ou de passion, c'est la chose qui a déclenché mon envie de raconter des histoires avec des dessins.
Une dernière question, Delphine Diaz, Riyad Satouf.
Oui, c'est vrai que ces lectures d'enfance nous amènent aussi à poser finalement la question plus large de la représentation de l'enfance dans votre œuvre. Alors, dans l'Arabe du futur, c'est effectivement central. On a une enfance qui n'est pas du tout un monde totalement idyllique, un monde aussi de violence, hein, aussi bien entre enfants que entre enfants et maîtres, etc. Mais je voulais vous poser la question de savoir pourquoi vous adoptez presque systématiquement, j'ai envie de dire, le point de vue de l'enfant ou de l'adolescent hein, dans votre œuvre pour regarder, porter un regard sur le monde finalement.
Je crois que c'est parce que j'ai gardé une mémoire très vive de mes années d'enfance et que je n'ai jamais oublié ces années-là, et je remonte très très loin dans ma mémoire jusqu'à mes toutes jeunes années. Donc j'ai pas de voile noir sur l'enfance, donc je me rappelle très bien des relations des enfants entre eux, de la façon dont les enfants voyaient les adultes, de la façon dont les adultes voyaient les enfants, de la façon dont les comportements changent selon les interlocuteurs. Et c'est vrai que le point de vue de l'enfance sur le monde adulte est le point de vue que je trouve le plus surprenant, parce que on peut raconter des choses terribles et affreuses du point de vue des enfants sans en avoir forcément l'explication et sans jugement, en fait. Voilà, c'est quelque chose que j'aime. Mon père, par exemple, qui était très raciste et qui racontait des choses affreuses, moi, quand j'étais enfant, je l'admirais, et je pense que montrer un enfant qui admire un père qui dit des choses racistes affreuses, c'est pour le lecteur, ça apporte plus de choses qu'une condamnation d'adulte sur des propos racistes comme ça. C'est-à-dire que c'est aussi la transmission, comment les enfants sont conditionnés à des valeurs morales. Voilà, je crois que c'est le point de vue de l'enfant, c'est des points de vue les plus enrichissants. Enfin, c'est mon avis.
Et c'est en tout cas ce que l'on retrouve dans L'Arabe du futur. C'est donc le tome 3 de la série. Il est publié chez Alary Éditions et on retrouve à la fois une vision mélancolique et belle de votre enfance, de la Syrie qui résonne évidemment aujourd'hui de manière tout à fait particulière, qui fait l'histoire, puisque nous sommes en direct de ces rendez-vous de l'histoire de Blois, dont le thème est Partir. Partir, c'est également le titre du hors-série Le Monde France Culture, où vous pourrez retrouver un certain nombre d'articles signé par exemple Emmanuel Laurentin, puisqu'il y a un dialogue avec Michaël Jean, la diversité incarnée. Et puis vous pouvez retrouver également des articles consacrés aux réfugiés, aux vikings, à l'ibérisation de la plaine et à l'économiste Albert Hirschman. Un sommaire très riche donc pour ce hors-série Le Monde France Culture.